Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Que l'on lise la presse tous les jours, que l'on écoute de temps en temps la radio, que l'on zappe sur une chaîne d'information, on continue le sentiment qui prédomine et que la date de péremption de ces informations est courte. Pourtant, il doit exister comme en dessous des constantes, à en croire les sujets choisis par mes invités de ce matin. Élections américaines, dissuasion nucléaire, péril écologique, des sujets dans l'air du temps, dira-t-on, sur lesquels il est bon de s'arrêter plus longtemps. Le grand débat, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce vendredi, votre rendez-vous d'actualité. Ce mois-ci, pour les sujets d'actualité retenus, Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse, Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre également, frère consacré de la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et Philippe Soile, qui lui est professeur de philosophie dans la faculté de ce même institut. J'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour à vous trois, messieurs.
Bonjour à tout le monde.
Merci d'être fidèle au rendez-vous au milieu de vos agendas bien chargés avec les contraintes de cette émission. Donc on a choisi des sujets sur lesquels on est déjà revenu d'une certaine manière, en tout cas pour un certain nombre. Mais c'est très bien, ces sujets ils sont loin d'être... c'est pas parce qu'on a parlé une fois qu'on en a fait le tour. On va commencer avec vous en profitant de vos voyages aux uns et aux autres, et donc des choses vues et entendues de près, au-delà de la lecture dans les médias. Emmanuel Perrier, vous étiez aux États-Unis pour un voyage. Vous me disiez que vous aviez envie de parler d'une séquence qui s'est passée là-bas. Donc, pour rappel, je donne quelques éléments d'actualité. C'est là donc la fameuse procédure d'impeachment à l'égard de Donald Trump. Il y a les élections donc américaines qui sont pour novembre prochain. Je crois que c'est le 3 novembre prochain. Et puis, il y a eu donc le discours sur l'état de l'Union. Grand discours donc qu'a donné Donald Trump. Alors, si on commence juste par donner deux, trois éléments d'actualité sur la procédure de destitution, c'est donc une procédure qui a été lancée par la présidente démocrate de la Chambre des représentants. C'est une procédure qui a fait flop, puisque les républicains ont voté à la négative par 52 voix contre 48 et 53 contre 47 pour les deux chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Si on commence par ça, il faut peut-être redire de quoi il était accusé, entre autres, d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur l'un de ses adversaires démocrates, donc présumé pour la prochaine élection présidentielle, Joe Biden. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez entendu sur ce sujet côté États-Unis, Emmanuel Perrier?
J'y étais juste au moment où il y a eu les auditions au Sénat, et donc la Chambre des représentants avait passé le dossier au Sénat. Donc c'est normalement dans la procédure, c'est la Chambre des représentants qui instruit le dossier et qui doit présenter un dossier bien ficelé au Sénat avec des articles, des chefs d'accusation. Et puis c'est au Sénat de juger, de décider s'il y a eu une conduite répréhensible de la part du président et de le destituer. Jusqu'à présent, c'est une procédure qui a eu peu de succès, mais quand elle a eu du succès, en réalité, soit par exemple, il n'y a même pas eu besoin de la faire pour Richard Nixon en 1974, parce qu'il a démissionné avant, il était sûr de perdre. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'on arrive à des chefs d'inculpation qui sont tellement clairs qu'une chambre de représentants politiques est capable de tomber d'accord, c'est-à-dire qu'on sort des clivages partisans et on est capable de se mettre d'accord en disant « oui, il a commis cette faute ». Et, par exemple, pour Richard Nixon, c'était une évidence. En revanche, pour l'empêchement de la destitution de Bill Clinton, ça n'a pas marché, justement.
Aucune n'a abouti, en tout cas, depuis l'histoire des États-Unis. J'ai vu qu'il y en avait deux qui avaient été menées, celle d'Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998.
Voilà.
Et aucune n'est allée jusqu'au bout.
Pour Nixon, la, le Sénat était démocrate, donc on savait qu'il allait perdre, quoi.
Oui, mais même, de toute façon, là, il y avait une telle, si vous voulez, le retentissement de ce genre d'opération. Alors, c'est ça ce qui est intéressant du point de vue de notre analyse à nous. On n'est pas nécessairement très intéressé par ces questions. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir une démocratie à l'œuvre. C'est-à-dire que le fait de porter une espèce de transformer comme ça une chambre de un Sénat, une chambre des représentants, c'est-à-dire un Parlement, en tribunal, hein, produit un effet politique, parce que on en parle, on ne parle même que de ça, pendant 6 mois, ils n'ont parlé que de ça, et avec des répercussions très importantes. Or, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les démocrates cherchent la destitution depuis le premier jour. Dès l'entrée en fonction, dès le discours d'inauguration de Donald Trump, 2 heures après, le Washington Post publiait un article annonçant la destitution. Donc ça fait 3 ans qu'ils cherchent ça. Et ils ont cru trouver ça sur cette histoire de coup de fil au président ukrainien. Et ils ont tout misé là-dessus. Et ce qui a été frappant quand j'y suis arrivé, c'est que en réalité, leur dossier était mal ficelé. Ils n'avaient pas les éléments, ce qui a fait que la présidente de la Chambre des représentants, Mme Pelosi, a fait durer la transmission au Sénat parce qu'elle n'avait pas tous les éléments. Ils espéraient des témoins dernière minute, mais ils ne les ont pas eus, etc. Donc après, même après avoir transmis, ils ont continué à demander des nouveaux témoins, de nouvelles auditions. C'est-à-dire qu'en réalité, ce processus a été mené parce qu'on voulait la destitution de Trump et non pas parce qu'il avait commis quelque chose. Et le résultat, enfin,
L'objet, c'était justement de le prouver.
Oui, mais non. Il cherchait quelque chose depuis 3 ans.
Et vous avez écouté des médias, on va dire, divers et variés pour avoir ce point de vue ou est-ce que vous avez écouté juste certains médias américains? Excusez-moi de ma question. On peut imaginer que ce soit plus contrasté que la présentation que vous en faites.
Je vais dire les choses d'une autre manière. Je n'ai pas lu les journaux français. C'est un grand principe pour avoir vécu aux États-Unis. C'est un grand principe. Si vous voulez avoir une information sur ce qui se passe aux États-Unis, ne lisez pas les journaux français. Les journaux français ne font que relater ce qui se passe dans le microcosme des journalistes qui sont à New York ou à Washington et qui ne répercutent que leur petite bulle. Ils ne connaissent pas le pays. Et si vous voulez avoir un accès
Mais vous voulez dire que tous les médias américains relataient l'inconséquence du procès fait à Donald Trump?
Non, bien évidemment non, puisque 95% ou 90% des grands médias, des grands médias, sont vent debout contre Trump. Donc, il faut écouter, il faut lire ces médias, il faut écouter ces médias, mais il faut aussi écouter ce qui est une très grosse force d'opinion publique, qui sont les réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux, surtout les talk-shows, les émissions de radio, hein, qui, elles, sont beaucoup plus liées au terrain et qui, elles, sont beaucoup plus diversifiées. Donc, tout ça pour dire... Non, mais là, si vous voulez, si le dossier avait été ficelé, s'il y avait eu une bonne raison de le faire, le Sénat n'aurait pas été divisé selon les lignes partisanes. Ils auraient réussi à réunifier des personnes autour d'eux. Ils ne l'ont pas fait. Le résultat, c'est que...
Sénat qui est républicain, je le précise juste.
Oui, mais à 53 contre 48. Le problème n'est pas qu'ils soient républicains. Le problème, est-ce que dans une assemblée avec des républicains et des démocrates, le dossier est assez bien fourni, clair, pour qu'un Américain se dise, même si je suis républicain, je pense que mon président a fait une gravissime erreur. Alors, et que si je le soutiens, je vais détruire mon propre parti. Et mon propre pays.
Et l'honneur de l'Amérique.
Exactement.
Alors juste, excusez-moi, quand vous vouliez parler d'une séquence, est-ce que vous pouvez parler aussi des autres points? Donc il y a eu ce discours à l'Union.
Alors, ce qui est intéressant...
Discours donc, sur l'état de l'Union, donc, fait par Donald Trump, c'était son 3e. On peut dire 2-3 choses dont il a parlé. Le fameux mur qu'il veut construire entre les États-Unis et le Mexique, il s'est engagé, il a dit qu'il arriverait à le construire. Il a eu cette phrase aussi, j'ai relevé l'Amérique en vantant donc, le succès de sa stratégie économique. On peut dire aussi une ou deux choses. La lutte contre l'avortement tardif. Voilà, il veut faire passer une loi sur ce sujet. Il a redécrit à nouveau l'axe du mal, selon lui, l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, en disant la tyrannie du président Maduro sera brisée et détruite. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de ce discours sur l'état de l'Union, vu justement des États-Unis?
Alors, le discours sur l'état de l'Union est intervenu le lendemain de la décision. Et en fait, ça a été justement, c'est pour ça que c'est très important, c'est que toute cette préparation de l'impeachment qui a abouti à un échec parce que le dossier n'existait pas. Il n'y avait pas d'éléments suffisants pour faire condamner Donald Trump. A en fait servi Donald Trump. C'est-à-dire que les gens, d'une part, en ont eu marre d'entendre parler que de ça, alors même qu'il y avait des tas d'autres sujets qui les préoccupaient. Deuxièmement, ils ont eu le sentiment qu'on faisait un dossier spécialement pour l'abattre. Et troisièmement, cette affaire qu'on a fait surgir, elle impliquait Joe Biden, qui était le candidat numéro un du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a fait surgir Trump et qu'en réalité on l'a renforcé, c'est-à-dire que les sondages ont montré qu'il était renforcé par l'impeachment, en même temps on a détruit la candidature du candidat démocrate qui était le plus... celui qui avait le plus de chances, ou en tout cas qui était le plus sérieux.
En tout cas, c'est pas lui qui est aujourd'hui numéro un dans la course.
Mais justement, là, Joe Biden est mort.
Bernie Sanders.
Joe Biden est mort. La candidature de Biden est morte. Et donc, Trump a en fait s'est appuyé sur cet échec et il a fait un discours dans lequel il a fait ressortir, je dirais, ce qui fait sa force, qui est que pendant les 3 ans de son mandat, premier mandat, il a fait essentiellement ce qu'il avait dit sur beaucoup de fronts. Et en fait, celui qu'on présentait comme quelqu'un de brouillon et comme quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser,
d'imprévisible, qui
est imprévisible, en réalité, s'est révélé, au bout de 3 ans, avec ce bilan, s'est révélé au contraire très prévisible. C'est-à-dire que il a avancé sur tous les domaines qu'il avait donné comme étant les clés de sa politique. C'est pour ça que cette séquence dans laquelle on voit l'échec d'une procédure dans laquelle on a voulu régler l'élection de 2020 par la procédure de destitution, c'est-à-dire on a voulu empêcher Donald Trump de se présenter à nouveau en le destituant, ça a été perdu. Trump a pu avancer son bilan qui est, entre guillemets, qui est plutôt positif de son point de vue, et derrière, on a tué la campagne démocrate. Donc ça a été un moment assez important ces derniers jours, et le résultat, c'est malheureusement, c'est qu'il n'y aura pas de vrai débat politique dans cette prochaine élection présidentielle, parce que les démocrates n'ont pas fait le travail d'opposition, et ils ont cherché à destituer, au lieu de chercher à s'opposer avec un autre projet.
Vous conviendrez que c'est votre point de vue.
Oui, je crois. Mais vous verrez. C'est mon point de vue. Regardez, repensez simplement à la surprise de tous les journalistes français le jour où Donald Trump a été élu. C'était la même surprise que les grands médias de New York et de Washington. C'était pas la surprise des gens de la rue.
À propos donc du candidat, Donald Trump qui est, ils sont deux candidats républicains, donc il y a un certain aussi Bill Weld, ancien gouverneur du Massachusetts, mais tous les républicains sont donc derrière Donald Trump, ça aussi c'est important de le dire, alors que les démocrates sont très, enfin pas divisés, disons qu'il y a plusieurs candidats, pour l'instant celui qui est en tête c'est Bernie Sanders, peut-être que les auditeurs ont entendu parler, qui est sénateur donc du Vermont depuis 2007, qui est un opposant au libre-échange absolu, tout en étant soutien au mariage homosexuel, abolition de la peine de mort. Bref, les lignes des États-Unis sont un peu plus... sont différentes de celles de la France.
Mais il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Sa candidature va se faire détruire très vite.
Allez, on passe à un deuxième sujet international. On fera une pause musicale plus tard. Madagascar, ça n'a rien à voir. On va dire qu'on saute
là,
presque
on est clivant, là, hein.
dans deux univers. Je vais donner juste, pour introduire votre propos, Tanguy-Marie Pouliquen, quelques chiffres, encore faut-il que je les retrouve. Madagascar, c'est un autre monde. Le PIB de Madagascar, c'est 1 500 $ par habitant, à peu près, soit en tout cas 30 fois moins que la France. C'est un pays de 25 millions d'habitants dans l'océan Indien, donc rattaché à l'Afrique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce pays qui dit qu'on est loin des États-Unis?
Beaucoup de choses,
92% de pauvreté, 15% de la population qui a de l'électricité, 5000 km de route bitumée, c'est tout. Et pourtant, moi qui y suis allé une fois, quel sourire quand on arrive. Ces gens, qu'est-ce qu'ils sont a priori souriants et généreux. Alors juste, il y a une actualité politique. C'est quand même qu'Yves Le Drian, donc, y est allé récemment, a promis un soutien à hauteur de 240 millions d'euros sur 4 ans, dont est prêt pour aide au développement. Et puis il y a une histoire d'île. Racontez-nous cette histoire d'île, Tanguy Maripoulikien, pour commencer. Les îles éparses.
Oui, c'est les petites îles qui sont autour de Madagascar, tout petites, hein, et personne n'habite dessus. Et la France, pour l'instant, ne veut pas les rendre à Madagascar, ce qui crée un émoi
qui les
local.
Qui les réclame.
Oui, qui les réclame. L'histoire de la France est liée à Madagascar. Il y a quand même eu une vraie colonisation. Il y a aussi une décolonisation. Et les petites îles sont restées françaises, certainement pour des intérêts de fonds marins. Voilà,
ça fait partie des 5 districts des terres australes et antarctiques françaises. Voilà, on ne connaît pas forcément l'existence de ces îles.
Bah, l'espace maritime français est le deuxième du monde.
Hein, oui, voilà. Tout le Pacifique.
Oui, exactement. Ça, c'est
pour des raisons sorte. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous a frappé à Madagascar? Peut-être hormis la situation politique, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager?
Moi, j'étais allé à Madagascar pour donner une vingtaine d'heures de cours à l'université et puis de prendre contact avec des projets humanitaires de référence. J'ai rencontré des hommes remarquables, mais surtout des œuvres remarquables, parce qu'il faut bien toujours distinguer les œuvres des personnes. Quand on demande aux Malgaches de quoi ils sont fiers, intéressant, quand on va dans un pays, de quoi vous êtes fiers dans votre pays? Alors que c'est un pays très pauvre, autour de 70-80% de pauvres, ils disent 3 choses. La nature, c'est vrai qu'est très belle. La musique, c'est vrai que assister à des messes avec eux ou à des rassemblements populaires, il y a une joie de chanter ensemble qui est très douce, qui est très porteuse, très agréable. Et puis un mot barbare pour nous en tout cas, ce qu'on appelle la fia vanana, c'est-à-dire la capacité, et ça c'est inscrit profondément dans l'identité des Malgaches, d'une convivialité, de proximité solidaire, voilà. Ça s'incarne dans la vie sociale très concrète, dans les embouteillages. Les embouteillages sont bon enfant. Pourtant, il y en a beaucoup hein, à Tananarive. Hein. Alors, cette Via Nanana, donc moi je l'ai scrutée, j'essaie d'aller voir sur le terrain. Et donc
c'est eux qui en parlent ou
c'est eux qui en parlent.
C'est pas un qualificatif qu'on donne sur...
Non. Et quand vous dites à un Malgache Via Vanana, il sourit, il sait très bien. Il sait que c'est quelque chose de spécifique à Madagascar. Et on sent, c'est vrai, que c'est inscrit dans une forme de douceur de leur être, une douceur quasi évangélique, en tout cas très proche aussi d'une nature profonde, unifiée au cœur même d'une grande pauvreté. Alors, moi je suis allé rencontrer quelques belles œuvres humanitaires, dont deux. J'ai rencontré le père Pedro,
qui a été visité donc par le père François.
Un prêtre slovène, je dirais argentin, lazariste, ancien élève du pape François, en tout cas en philo, et puis que depuis de très nombreuses années, à Madagascar, et qui a réussi à rassembler 25 000 personnes, des personnes de la rue.
Tananarive, hein, il faut dire.
À Tananarive, voilà. À Kamasoa, et des gens, des enfants de la rue. Il a commencé sur la grande décharge publique de Tananarive, et progressivement, il a fédéré ces gens pauvres en leur disant « on va s'en sortir ensemble ». Et il les a fait travailler. Il leur a donné les moyens aussi pour qu'ils puissent travailler et construire d'abord ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire des logements. Et il a fait quatre petites villes et des petites maisons très, très, très mignonnes. Mais il a permis que les uns construisent la maison des autres. Donc il y a une sorte d'éthique sociale absolument chrétienne appliquée à la joie de l'Évangile. Et ça détonne. Alors,
racontez-nous la célébration là, dans ce grand hangar. On avait vu, pour ceux qui suivent les voyages du pape,
oui, donc
la joie du pape. D'ailleurs, il y a des touristes, c'est un grand moment.
C'est un grand stade de basket, en tout cas avec un très grand parterre. Une dizaine de milliers de personnes se rassemblent chaque dimanche avec 250 servants de messe, 1500 danseurs sur le parterre et une ambiance quasi électrique de concert, mais ici évangélique.
Vous avez réussi à pas danser du coup ou...
Alors moi j'ai évidemment le père Pedro qui mène ça avec son charisme très, très touchant. Au milieu de la messe, il me dit t'as l'air d'être charismatique, toi maintenant c'est toi qui prêches. Donc, il a fallu s'improviser pour être prédicateur devant
cette... C'est un pays francophone, quand même.
Cette foule, oui. Alors, je suis sûr que tout le monde comprend très bien le français.
Oui.
Je prêchais aussi certainement pour les étrangers qui étaient là, mais une vraie joie communicative qui met en évidence ce lien entre l'éthique, la pensée de l'éthique, l'éthique catholique au plan social, et puis la réalisation, l'œuvre. Et là, il y avait une jonction évangélique absolument, je ne veux pas dire parfaite, mais hyper convergente, et qui incarne le message du pape François, c'est-à-dire que les pauvres sont la source de la joie de l'évangile.
Deuxième exemple, après on fait la pause musicale.
Alors,
une belle figure,
ouais, c'est le frère Jacques Tronchon, qui est un franciscain, et lui qui se promène avec ses frères la nuit dans Antananarivo pour rassembler des familles qui vivent dans la rue. Et il va leur assurer pendant 3 ans un programme de formation agricole, et puis pour les femmes, des métiers connexes, facilement réalisables, notamment la vannerie et autres. Et au bout de 3 ans, ces familles ayant avancé ensemble dans leur formation, elles sont envoyées au centre de Madagascar. On leur donne un terrain, on leur donne une maison. Ils deviennent propriétaires de la maison et du terrain s'ils restent plus de 5 ans de suite. Voilà. Et vivant ensemble dans des petits villages, ils vont être des agriculteurs, et certains sont des producteurs absolument remarquables. Et le tissage territorial va se faire d'année en année, où on construit des villages de proximité les uns avec les autres. Voilà, une manière de...
Voilà ce coup de zoom donc sur Madagascar. On peut noter aussi une chose pour ceux qui connaissent. Donc il y a Sonia et Alexandra Poussin, qui est donc ce couple d'aventuriers, de voyageurs, et qui avaient traversé l'Afrique et qui avaient écrit un livre qui s'appelait Africa Trek.
J'ai vu leur charrette.
Et voilà, et qui finissent un tour de Madagascar en 4... ils ont fait ça pendant 4 ans en famille, ça s'appelle Madatrek, pour contribuer à valoriser, à faire connaître Madagascar. On peut imaginer aussi à favoriser un tourisme intelligent. Et donc, Madatrek, ça va être une série de films et probablement un livre qui va bientôt sortir, Sonia et Alexandre Poussin. On fait une première pause musicale et puis on va retrouver pour d'autres sujets, actualités mondiales et françaises, puisqu'on va parler au début en tout cas de la dissuasion nucléaire et du discours récent, probablement beaucoup n'ont pas vu passer ce discours d'Emmanuel Macron sur le sujet.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, pour ceux qui nous rejoindraient. Autour du plateau, Emmanuel Perrier, prêtre religieux, professeur de théologie. Tanguy-Marie Bouliquin, prêtre et religieux aussi, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Et Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Troisième sujet, donc la dissuasion nucléaire. Alors c'est donc Emmanuel Macron qui récemment a fait une intervention devant les cadres de l'école de guerre. L'école de guerre, c'est on va dire c'est l'ENA de la guerre pour des officiers et des militaires en France, lieu important. Et Emmanuel Macron a rappelé donc l'importance de la dissuasion nucléaire. Il a redit entre autres que la France était engagée sur cette voie, que sa doctrine ne changeait pas. Et la France étant maintenant la seule puissance nucléaire européenne, a invité les Européens à s'interroger sur cette stratégie. Il a parlé aussi de la course à l'armement, pas forcément pour dire que la France allait prendre les devants, mais que face aux États-Unis et à la Russie qui ont ses velléités, il était important de se poser cette question. Emmanuel Macron, qui est aussi intervenu le lendemain, je crois, ou quelques jours après, pour plaider donc pour une Europe puissante. C'était la 56e conférence de Munich sur la sécurité. Une Europe plus souveraine, unie et démocratique, une puissance politique et stratégique. C'est l'Europe que je voudrais voir dans 10 ans, plus vite et plus loin sur les éléments de souveraineté au niveau européen. Donc on imagine qu'il parle aussi des questions d'armement. Alors Emmanuel Perrier, pourquoi est-ce que vous avez voulu souligner ce sujet de la dissuasion nucléaire ?
Mais d'abord parce que c'est un exercice de chaque président de la République de redéfinir la politique de la dissuasion nucléaire. Et ce point m'a intéressé cette année parce que le pape François, à Hiroshima, il y a quelques mois,
en novembre dernier, a
rappelé la doctrine de l'Église sur sur l'armement nucléaire en disant combien c'est une arme qui est intrinsèquement mauvaise. Pourquoi intrinsèquement mauvaise ? Parce que elle ne s'attaque pas à des combattants, mais elle vise à détruire l'intégralité des ressources, des personnes, d'un pays. Et donc, elle ne peut pas être une arme normale, conventionnelle. Là où le pape François est allé un peu plus loin, c'est quand il a dit « même la dissuasion est immorale ».
Perverse et immorale.
Oui. Et Emmanuel Macron, dans son texte à l'école de guerre, a répondu. Il a répondu en disant « certes, nous sommes attachés à l'idée que il faut désarmer. Et cela est rappelé, du reste, dans le traité de non-prolifération, et sur le fait que le but, ça serait d'être sans armement nucléaire. Mais, en même temps, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans des conditions dans lesquelles, même si nous, Français, nous engagions dans un désarmement, en réalité, nous sommes des petits joueurs dans la cour des grands. Et ça n'aurait aucune influence sur les autres pays.
On peut donner juste quelques chiffres. Russie, c'est 7500 têtes nucléaires. États-Unis, à peu près pareil. Et derrière, en effet, la course, ceux qui sont derrière, c'est-à-dire Grande-Bretagne, Chine, France, sont à peu près 200 ou 300. Et puis certains comme le Pakistan, comme l'Inde, sont encore plus loin du compte. Donc on joue pas dans la même catégorie.
Et Israël,
c'est encore
moins.
Mais
je voulais juste rajouter la raison pour laquelle c'est important. Il me semble, en fait, ce discours de Macron, et puis juste avant le discours du pape François, il faut les écouter parce que nous sommes, et c'est le cas particulièrement avec les changements, les évolutions actuelles des États-Unis, c'est que nous sommes en train de sortir de l'équilibre des forces qui s'est installé après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous entrons dans une période beaucoup plus trouble, dans laquelle il n'y a plus d'opposition de deux grands blocs, mais il y a le retour à des réarmements régionaux ou nationaux qui sont très importants, qui inquiètent d'une part le pape François, d'autre part Emmanuel Macron.
En l'occurrence, il faut dire donc que ce traité de non-prolifération a du plomb dans l'aile. Voilà, il avait été signé par Reagan et Gorbatchev en 87.
Pas le TNP. Celui qui a du plomb dans l'aile, c'est le START.
Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, c'est-à-dire...
Alors celui-là, il est mort, enfin, il est quasiment mort, les armes intermédiaires. En revanche, ce qui est en jeu, c'est pour 2021, le traité START, qui est sur les armements stratégiques. Et puis, en revanche, il reste toujours le traité de non-prolifération.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire qu'en fait, Emmanuel Macron, ça peut être comme un complément du pape François ? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a quand même une contradiction,
une impossibilité. Il y a une vraie prise de conscience des dangers dans lesquels nous entrons. Et par exemple, un élément important d'Emmanuel Macron, et je crois qu'il est très important, il a rappelé l'engagement de la France à ce que dans la période troublée que nous vivons, le droit doit primer sur la force. Et ça me paraît un discours extrêmement important.
Et il fait le choix de la dissuasion nucléaire, enfin, et qu'on continue à le faire, quand le pape François, lui, dit qu'il est immoral de posséder des armes atomiques et qu'un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire.
Oui, alors, mais si vous voulez, c'est la distance entre ce qui peut être le discours du pape qui dit « mais de toute façon, ces armes sont intrinsèquement mauvaises, et plus elles se disséminent, plus, et dans les années qui viennent, le danger, on voit des pays qui cherchent à les acquérir, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui se fragmente, la survie d'un pays dépend de sa capacité à dissuader ». Et donc, on voit des pays chercher à s'armer. Et donc, le danger que l'on voit, c'est celui d'une reprise et d'une dissémination nucléaire, face auquel le pape François dit, il n'y a qu'une solution, c'est d'arrêter. La position de Emmanuel Macron n'est pas celle du pape, c'est celle d'un chef d'État qui est responsable et qui, lui, doit dire « Oui, mais moi, je dois en même temps défendre mon pays face à des menaces. »
Oui, mais la question qui est posée de fond, c'est est-ce qu'on a besoin de la dissuasion nucléaire, en fait, quand c'est une arme, de toute façon, donc on n'a pas vocation à utiliser.
Quand vous
c'est
êtes
aussi
face...
la question indirecte que pose le pape François.
Quand vous êtes face à
tous ces États.
Un monde armé nucléairement, si vous n'avez pas la dissuasion, vous êtes exactement dans la position, ce qui conduit les petits États à vouloir s'armer, ce qui conduit l'Iran à vouloir s'armer. Ils se disent, si je n'ai pas l'arme nucléaire, on va renverser mon gouvernement, on va m'envahir comme la Syrie, comme l'Irak, etc.
Si je comprends bien, ce ne sont pas seulement des enjeux nationaux, mais aussi des enjeux de personnes. Un tyran au pouvoir sait qu'il ne survivra en tant que tyran que s'il est surarmé, que s'il a l'arme nucléaire, ce qu'on voit en Corée du Nord. Donc ce n'est pas seulement un pays qui veut survivre, mais c'est un régime tyrannique qui veut se survivre.
Exactement.
Ouais. Tanguy-Marie Politien, vous vouliez prendre la parole.
Oui, c'est-à-dire que un chiffre qui peut être intéressant, c'est que l'aide au développement dans le monde est 12 fois inférieure à la production d'armes dans le monde. Donc là, il y a un chiffre qui met en évidence un décalage entre le souci premier du pape François, c'est-à-dire le développement durable des pays, et puis de prendre les pays là où ils sont, et le souci de quelques grands égaux ou de dictateurs de survie de vouloir se surarmer pour survivre. Moi, je soulignerai la question du droit. Aujourd'hui, on voit bien... On revient à des accords bilatéraux, on sort d'une perspective multilatérale, je dirais planétaire, où on dialogue et on respecte le droit. Le droit, à nouveau, risque de passer en dessous le rapport de force. Et là, la grande évolution récente depuis une dizaine d'années, c'est que certains grands pays ne veulent pas d'abord respecter le droit et les accords planétaires. Ils veulent affirmer leur force au regard d'autres pays qui vont affirmer leur force, créant des zones troubles et de conflits potentiels. Oui.
Je ferai une remarque aussi, c'est que après la chute de l'URSS, nous avons eu la naïveté, ou certains ont eu la naïveté de croire que nous entrions dans un monde plus paisible et que l'abolition de la dualité URSS ou pays de la liberté conduirait à un monde paisible. En fait, c'est faux. On pouvait déjà à l'époque le savoir, je pense à Fukuyama par exemple, que nous entrions au contraire dans un monde polyvalent avec plusieurs centres et un monde extrêmement dangereux avec de nouveaux dangers finalement. Mais il y a aussi un autre point à rappeler, c'est la vieille maxime des Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et de ce point de vue-là, jamais dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, on a vu un pur et simple triomphe du droit aux dépens de la force. On a plutôt vu toujours des rapports de force plus ou moins habilement maquillés de rapports juridiques. Et la maxime reste, si tu veux la paix, prépare la guerre.
Et même, si tu veux la paix, dissuade.
Et oui, c'est ça.
Dissuade.
Parce que dès lors qu'il y a la bombe atomique, dès lors qu'elle est là, ou on est dans le jeu, ou on est perdu.
Et la période de paix qu'on a expérimentée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était la plus longue de l'histoire.
Ouais.
À cause de quoi ? De la dissuasion nucléaire.
C'est paradoxal et effrayant.
Paradoxal et effrayant, oui.
Alors, Philippe Soile, justement, on vous donne la parole. Vous vouliez parler de l'angoisse écologique, particulièrement chez les jeunes. Alors, pour vous lancer, c'était dans un récent numéro du nouvel hebdomadaire de La Croix, chez les ultra-écolos précurseurs ou doux rêveurs. Il y avait un entretien de Bruno Latour, donc intellectuel français. Je vais rappeler en deux, trois mots qui il est. Donc, il est prix de la Académie française, donc chercheur, sociologue, anthropologue, philosophe des sciences. Donc, semble-t-il, un homme écouté dans ces milieux, qui lui-même raconte dans ce long entretien, donc l'hebdomadaire La Croix, l'angoisse qui est la sienne. Il a lu entre autres un livre d'un certain Clive Hamilton, Requiem pour l'espèce humaine. La journaliste lui pose la question : comment vivez-vous personnellement avec cette angoisse ? Ma solution à moi a été de disperser mes angoisses sur d'autres personnes à travers mes conférences, mes livres et le théâtre. Et puis un peu plus loin, il avait l'air sérieux en disant ça. L'énorme pression des données tellement difficile à encaisser, une pression accompagnée jusqu'à récemment par le déni ou l'indifférence de l'opinion publique. Voilà, il laisse entendre que quand on est au courant de ce qui se joue, c'est difficile de ne pas être un peu tendu. Alors, il y aurait d'autres compléments d'informations que tu as donné. Philippe Soile, dites-nous.
Alors,
Même les vieux sont angoissés à lire le journal La Croix.
Oui, tout le monde est angoissé. Alors, c'est cela qu'il faut interroger. Alors, je commençais par une première remarque qui consistera à dire que ce n'est pas une question d'actualité. Nous sommes dans une réunion pour parler de l'actualité, mais il y a quelque chose qui est inactuel. Cette chose s'appelle l'avenir. L'avenir, par définition, n'est pas actuel, le passé n'est plus. Et c'est la grande question de notre humanité. Est-ce que nous avons encore un avenir ? Est-ce que nous attendons ? Est-ce que nous espérons ? Est-ce que nous préparons l'avenir ? Et ce qui m'effraie dans tous ces discours catastrophistes, c'est que nous sommes en train, comme par avance, de renoncer à l'avenir. Nous entrons dans l'avenir à reculons, nous nous détournons de l'avenir et nous engendrons une immense angoisse. Donc je crois qu'il faut interroger cela. J'ai été frappé, je suis allé rencontrer des lycéens au mois d'octobre et novembre dernier dans des lycées de Toulouse et ailleurs. Et en les écoutant, je parlais aussi, j'étais là pour parler de l'écologie, j'ai été frappé de voir leur désarroi et même leur angoisse, en fait. Certains sont prêts presque à arrêter de respirer, je caricature à peine. Certains en viennent à des formes d'anorexie. Anorexie, c'est du grec, c'est anorexie, c'est l'absence du désir, la privation de désir.
Il y a une maladie, donc, d'ailleurs, hein, il paraît qu'il se développe. Hein.
Oui, bien sûr, et on peut comprendre.
La solastalgie.
Voilà. Alors, ça, c'est le premier point. Je voudrais aussi rappeler que c'est un vieux fonds de commerce.
Attendez, juste que c'est quand même un premier point qu'on peut interroger, parce que vous êtes en train de nous dire que ce catastrophisme, c'est une manière de ne pas arriver à avoir un avenir. Au contraire, on peut imaginer, et je pense entre autres à certains jeunes auditeurs qui nous écoutent, que c'est une manière heureuse de se projeter, que d'avoir la vision d'un monde qui soit capable d'encaisser cette difficulté ou ce drame écologique en cours.
Non, parce que ce qu'on leur fait miroiter, c'est le monde de la catastrophe. L'avenir proche est la catastrophe. En 2050, il n'y a plus de vie sur la Terre. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est ce discours-là que je voudrais démonter et détruire, en fait.
C'est un discours dans lequel le futur est forcément...
Oui.
Forcément. Mauvais.
Mais il y a quand même
La question qui est comment survivre ?
Nous croyons que ce futur est nécessairement mauvais. Ouais, donc la question, c'est
mais il y a quand même
même
des
pas comment survivre, parce qu'il n'y a pas de survie possible.
D'accord,
c'est fini.
Mais vous reconnaissez qu'il y a quand même des réalités objectives.
Bien sûr, bien sûr.
Qui sont sujets quand même d'une préoccupation importante.
Oui. Mais alors,
on pourrait citer des chiffres. Mais...
Le rôle du pasteur.
Et avec des signes d'espérance aussi. Hein.
Mais oui, bien sûr. Mais mon attaque ne va pas à la réalité. La réalité, il y a bien des choses inquiétantes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais elle va plutôt à ceux qui font leur fonds de commerce de faire peur et de manipuler les angoisses. Quand j'étais lycéen, quand j'étais jeune étudiant, je me rappelle de ces discours, l'appel au vivant de Roger Garaudy pour le nommer par exemple, de livres qui nous promettaient pour l'an 2000 pas de nourriture, plus de pétrole, enfin voilà. Donc on a cessé d'entretenir cela, ces discours catastrophistes. Il y avait, nous venons d'en parler, la bombe atomique, la peur de la bombe atomique, la peur de la Troisième Guerre mondiale, la pollution, etc. Il y a quelque chose de neuf aujourd'hui quand même, parce que nous passons à un degré supérieur. Ce n'est pas simplement la peur d'une nouvelle guerre atomique, d'une nouvelle guerre, etc. C'est la peur nouvelle d'une pure et simple extinction de la vie sur la Terre. Voilà. Et donc là, je ne vois aucun discours scientifique pouvant prouver que dans 25, 30 ou 100 ans, il n'y aura plus de vie sur la Terre. Mais certains semblent en être persuadés. Et ce qui m'intéresse plutôt, ce n'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que je suis incapable d'en décider, mais quel usage à quoi sert cui bono, comme on disait à une certaine époque, à qui profite le crime. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et donc je note cette angoisse d'anéantissement de la vie, ce refus de la vie, ou plutôt cette angoisse d'anéantissement qui conduit à un refus de la vie. Et je m'adresse à la jeunesse en disant cela, parce que je crois que nous commettons, nous les adultes, une faute à l'égard de la jeunesse quand nous tuons l'espérance dans la jeunesse. Si j'ai bonne mémoire, dans la Divine Comédie de Dante, à l'entrée de l'enfer, il y a un panneau sur lequel se trouve écrit « Toi qui entres ici, enlève toute espérance, renonce à toute espérance ». Donc, nous mentons à la jeunesse en lui faisant croire que la vie est pourrie, que l'homme est un être prédateur, un corrupteur, un destructeur, et qu'il n'y a pas d'avenir, et que le seul avenir, ce serait le suicide, parce que finalement, cum grano salis, c'est à cela que nous arrivons.
Ça peut être aussi une conversion, un changement de civilisation.
Absolument,
en tout cas, c'est...
absolument, bien sûr.
Je citerai juste donc, pour prolonger votre réflexion, et avant de donner la parole à ce monsieur, donc Régis Debré, qui vient, un grand intellectuel français, qui vient de publier un pamphlet qui s'appelle Le siècle vert, parlant d'un changement de civilisation. Et pour ajouter à votre propos, il disait dans une interview au journal La Vie récemment, et nous revoilà dans la nature, laissant entendre qu'il y avait une bascule civilisationnelle. On revient vers le druide et le chaman, comme si nous étions recrues d'épreuves, fatiguées par l'histoire. Nous nous trouvons un nouvel identifiant, un nouvel englobant. Le néo-paganisme écologique est une déshistorisation et une déchristianisation. Il dit que ce n'est pas forcément un progrès. Allez, dans l'ordre, Tanguy-Marie Pouliquen.
Moi, je voudrais réagir en mettant des signes d'espérance, c'est-à-dire que le catastrophisme n'arrive pas à affronter, finalement, la nouvelle société qui émerge. Et quelques indices au plan politique, en rencontrant dernièrement le président de Suez pour le développement durable, il me disait de go, que finalement, ce qu'annonçait le prix Nobel Mohamed Yunus, c'est-à-dire que les indices boursiers à l'avenir seront évalués à l'intégration réelle par les entreprises d'une éthique sociale, est déjà à l'œuvre. Et que des grands groupes sont obligés maintenant...
Social et écologique,
sont obligés par leurs actionnaires, et par une pression des grands argentiers, en raison d'une culture qui va dans ce sens-là, d'intégrer dans leur entreprise des variables de baisse de production de CO2, etc., mais massif. À ce moment-là, on peut se dire qu'on pensait que ça serait dans 10-15 ans. Non, c'est déjà opérant. Les grands groupes financiers, les grands groupes plutôt économiques, les grands producteurs, déjà intègrent dans leur programme, dans leur objectif, ces variables. Donc là, il y a déjà quelque chose qui est en train d'être un levier actif qui prépare déjà réellement... l'économie de demain, est-ce suffisant? C'est pas la question. Déjà, c'est opérant et merci à ceux qui agissent dans ce sens-là.
Bien sûr. Oui.
Emmanuel Perry, rapidement, si on veut parler des autres sujets.
Deux petites remarques. Première, pour aller dans le sens de Philippe, je trouve qu'il y a une obscénité qui s'est développée à utiliser les enfants. On a vu ce que ça donne avec Greta Thunberg.
Exactement.
Au lieu de l'apaiser, d'apaiser ses angoisses, on les a au contraire encouragés.
Instrumentalisés.
Et on a créé, j'ai vu, constater exactement la même chose dans les écoles.
On ne peut pas se dire qu'elle le fait d'elle-même et qu'elle est assez grande pour...
Mais c'est évident que non. Enfin, non, ça, certainement faut pas. Être...
Non, certainement pas.
Il y avait une agence de communication derrière. Peu importe.
Vous êtes tous d'accord autour du plateau, mais on peut imaginer que deux auditeurs ne sont pas d'accord avec vous.
Mais le problème,
c'est quand même de vous interroger. Parce que parfois, vous êtes quand même très affirmatif, comme si vous connaissiez Greta Thunberg personnellement.
Le problème, c'est qu'il y a des âges... Mais non, mais on sait bien ce que donnent des angoisses, ce que donnent des angoisses chez des adolescentes. Et il faut non pas les encourager, mais au contraire, les aider à trouver le chemin vers la vie quand les angoisses arrivent. Et ça n'est pas le rôle des adultes de mettre ces angoisses sur un piédestal. C'est obscène même d'utiliser des enfants pour faire passer des agendas politiques. C'est obscène. Les faire parler à la tribune de l'ONU ou à l'Assemblée nationale, c'est obscène. C'est de l'utilisation de l'enfant à des fins purement politiques. Deuxième aspect, je pense qu'il va falloir assez rapidement trouver les moyens de faire la distinction entre ce qui est de l'écologie qui est en train de dériver vers le nouveau totalitarisme, c'est-à-dire la comment dire, la nouvelle forme du marxisme et des idéologies du XXe siècle.
Nouvelle religion séculière, dit
exactement.
Une adoration de la nature.
Exactement, avec à la clé la destruction de l'homme, l'anti-humanisme, c'est un anti-humanisme,
c'est
et de l'autre, une vraie écologie dans laquelle l'homme a sa place dans le monde. Ça, c'est la clé. Et il ne faut pas être toujours, dès qu'on agite le mot écologie, se dire « Ah, c'est merveilleux, c'est de l'écologie ». Non, il y a de l'écologie qui tue, il y a de l'écologie qui élève.
Mmh. Allez, on fait une deuxième pause et on vous retrouve. On va parler après donc des municipales et d'autres sujets.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Pour ceux qui par hasard nous rejoindraient, pardon pour les autres, autour du plateau, Emmanuel Perrier, prêtre religieux, professeur de théologie, Tanguy-Marie Boulquin, prêtre et religieux également et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Lui et Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Alors vous vouliez parler donc de deux autres sujets, en l'occurrence donc les municipales, le 15 mars et le 22 mars prochain, donc élections municipales en France. Voilà, Tanguy-Marie, quel était le sujet? Moi, je voulais vous lancer sur le vote RN, mais je pense que c'est pas le sujet que vous avez choisi. Je me permets juste de citer Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, voilà, qui dit « Il y a bien une percée de Marine Le Pen dans le monde rural, et c'est vrai que les dernières élections européennes avaient montré donc qu'il y avait une grosse différence ville-campagne. » Je le dis pour stigmatiser personne, mais parce qu'on lit dans les sondages qu'aujourd'hui, voilà, le RN serait à la peine. C'est en tout cas pas tout à fait l'avis donc du ministre de l'Agriculture. Dites-moi, vous aviez choisi l'angle du logement.
Le logement, oui, parce que je pense que ce dont ont besoin d'abord les personnes les plus pauvres, c'est d'être assurées dans la pérennité de leur logement. À Toulouse, par exemple, l'année dernière, 43 personnes SDF sont mortes dans la rue, sans logement. Bon, ce sont des parcours atypiques qui mettent en évidence une crise du logement fort. 40% des Français ne sont pas propriétaires de leur logement. Donc, on cette épée d'Amoclès de un jour potentiellement aller à la rue. Et voilà, alors qu'il y a des scandales de logements. À Paris, 20 000 logements sont vides. Actuellement, un appartement sur deux à Paris est occupé par une seule personne. Donc il y a une sorte de marché du logement. Et heureusement que les pouvoirs publics interviennent directement à travers des belles lois, la loi Dalloum, mais surtout la loi SRU, Solidarité et Renouvellement de l'Urbanisme, qui impose 25% des logements comme des logements sociaux. Alors bonne nouvelle, Toulouse est bien lotie en logements sociaux.
Alors votre remarque, quelle était à propos des municipales? C'est quoi? C'est qu'il faut...
C'est-à-dire qu'il va falloir que les maires s'attaquent à la production de logements et puissent loger de manière décente. On l'a vu avec la crise des gilets jaunes. Hein. Pourquoi il y a toute une frange de la population qui se met aussi en colère, parce qu'elle est trop loin des centres des villes, des lieux de travail, et donc il y a des déplacements qui sont les surcoûts. Donc c'est une invitation à construire des logements, et des logements qui puissent être accessibles, financés par les classes moyennes et par moins que les classes moyennes. Le prix du mètre carré à Toulouse, c'est 16 euros le mètre carré. Vous multipliez par 50 mètres carrés.
Pas 16 euros.
Non, 16 euros le mètre carré à Toulouse. À Toulouse, 16 euros le mètre carré. Si.
C'est pas possible.
Ça doit être 1600 euros. Ça doit être 1600 euros.
Non, le mètre carré.
Mais oui.
Le mètre carré du logement.
Mais ça fait 100 mètres carrés.
C'est 3000 euros.
Ça fait 100 mètres carrés à 16 000 euros.
Alors, c'est 12.
Ce serait fantastique à 16 euros le mètre carré. Là, j'achète. Tout le monde achète
12 euros, moi, ce que j'ai lu. En Haute-Garonne, c'est 12 euros.
Si vous multipliez par 100, ça fait 1600.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'un appartement à Toulouse.
1600.
À Toulouse.
Allons pour 1600. Donc, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, mais je parle
pour location.
Pour 50, oui, pour location.
Ah, location.
En location. En location, oui, en location. Oui, non, pas
en
achat.
En tout cas, les maires doivent être en pointe sur ce sujet. C'est ça votre.
Ça veut dire que, en raison. Si on prend les chiffres explicites, c'est en raison d'un prix élevé du mètre carré en termes de logement, en termes de location, c'est trop élevé pour une frange de la population. Donc seul l'accès au logement social, et puis il y a des leviers dans les zones prioritaires, donc dans les quartiers un peu plus difficiles, la TVA n'est pas de 20%, elle est de 5,5%. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de construire des logements sociaux et de faire du mixte au plan sociétal, parce que le problème c'est le communautarisme social, au cœur même des villes, avec des leviers de production de logements sociaux plus importants et de vente de logements sociaux à plus bas prix pour le plus grand nombre.
Voilà pour les élections municipales. De toute façon, on aura le temps d'en reparler. Il y aura d'autres émissions à l'occasion de ces élections. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus au micro de Vivante Église ce matin. Merci pour vos points de vue éclairés. Je suis désolé, en effet, on arrive à la fin de l'émission. Voilà, gestion du temps. À revoir. Cette émission a été réalisée. Merci beaucoup. Émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.